Si je vous demande quel livre se trouve au milieu de la Bible, vous allez tous dire les psaumes. Très bien, je n'ai plus rien à dire. Non, je vais quand même rester. Et si je vous demande le psaume le plus long, vous allez dire? Je n'entends pas. 119, voilà, le 119. La plupart d'entre vous pourront même me dire quel est le sujet de ce psaume, mais on va voir ça tout à l'heure. Nous commençons par lire une des 22 strophes du psaume 119. Je ne vais pas tout lire, hein. Seulement la deuxième strophe, parce que c'est un psaume qui a des strophes. Et nous lisons les versets 9 à 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Je ne sais pas si vous êtes amateur de mots croisés ou d'autres jeux basés sur les mots. Par contre, si vous avez un esprit un peu matheux. En tout cas, si les chiffres et les lettres vous passionnent, ce sont à tout pour vous plaire. Ce psaume comporte 22 strophes de 8 vers chacun. 22 fois 8 égale 176. Et les 8 versets de chaque strophe commencent tous par la même lettre en hébreu. Si vous avez une Bible de Jérusalem ou une nouvelle Bible seconde, vous avez ces lettres sans explication. Vous voyez Aleph, Beth, etc. jusqu'à Tav qui sont écrits à la tête des versets de ce psaume. En effet, la première strophe, versets 1 à 8 qu'on n'a pas lu, chaque verset commence par Aleph, ou, si vous voulez, A. La partie que nous avons lue, 9 à 16, chaque ligne commence par Bet, ou la lettre B pour nous. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui n'est pas Z, mais qui est Tav. Donc, 22 lettres de l'alphabet hébraïque et 22 strophes. C'était sans doute une façon de pouvoir apprendre ce psaume par cœur, A, B, 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 etc., pour aller jusqu'à la fin. C'est un petit chef-d'œuvre de poésie hébraïque par la régularité et par la beauté de sa forme. Mais aujourd'hui, quand un chef-d'œuvre est publié, d'habitude, on le sait. Au moins, on reconnaît la personne. Nous savons qui est le génie qui l'a écrit. C'était sans doute un génie qui a écrit ce psaume. Ce génie reçoit le prix Goncourt, un autre prix littéraire. Mais dans le psaume 119, il n'y a aucune indication du nom de l'auteur. Nous pensons, à cause du style de ce psaume, qu'il était écrit au temps d'Esdras. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce psaume exprime le sentiment du peuple de Dieu dans tous les âges. Et précisément ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas la forme du psaume, mais surtout son fond, le sens de ce long psaume de 176 versets. Nous allons voir ça sous trois têtes. D'abord, la parole de Dieu. Deuxièmement, la présence de Dieu. Et en troisième lieu, la part de l'homme dans tout cela. D'abord, la parole de Dieu. Le grand sujet de ce psaume, c'est la parole de Dieu et notre attitude à la parole. Nous chantons souvent le verset 105 du psaume. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Et c'est pour ça que à la Ligue pour la lecture de la Bible, qui existe depuis presque 150 ans maintenant, l'année prochaine, on aurait existé depuis 150 ans dans le monde, nous avons la petite lampe à huile comme notre logo, ta parole qui est la lampe qui nous éclaire les pieds. Et dans 172 des 176 des versets de ce psaume, on donne un synonyme de la parole de Dieu, de la Bible. Pourquoi 172, pas 176, on ne sait pas. Mais l'auteur se rattrape parce qu'il y a quelques versets, y compris dans notre lecture d'aujourd'hui, où il mentionne la parole deux fois. Il utilise donc 10 synonymes. Je prends la Bible à la colombe, c'est peut-être 11 ou 9 selon votre traduction, mais 10 synonymes dans nos traductions françaises, 10 mots pour désigner la parole de Dieu. Il y a bien sûr le mot « la parole », il y a le mot « la loi de Dieu », « les commandements de Dieu », « ses statuts », « ses prescriptions », « ses préceptes », « ses promesses », « ses ordonnances », « ses jugements », et ses voies ou son sentier. Ce n'est même pas nécessaire de faire beaucoup de recherches dans tout ce psaume pour trouver ces mots, parce que si vous faites la liste des mots qui se trouvent dans les 16 premiers versets, vous avez tous, sauf un. Vous allez ajouter les jugements de Dieu, et les 9 autres mots se trouvent dans ces 16 premiers versets du psaume. Ce vocabulaire peut nous surprendre aujourd'hui. On parle allègrement de la parole de Dieu. Mais quand on parle de la loi, des préceptes, des statuts, des prescriptions, ça commence à avoir l'air un peu légaliste. Est-ce que c'est une liste de lois qu'il faut suivre, des punitions si on ne les suit pas? Et vrai, c'est un aspect de la Bible, de l'Ancien Testament surtout. Il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament n'était pas seulement le livre religieux pour les Juifs, pour régler le vie spirituelle. Mais c'était aussi leur statut, c'était aussi la constitution de leur pays. Mais il faut aussi savoir que le mot la Torah, la loi, veut dire beaucoup plus que ce que nous comprenons par la loi. Comme dit un commentateur luthérien, Leupold, il dit ceci, « Toute l'étendue de ce que Dieu a révélé dans sa parole » des paroles d'instruction, des paroles d'avertissement et de réconfort. Tout cela s'appelle la loi, la Torah. Ce n'est pas tout simplement les lois comme nous les comprenons aujourd'hui. Même si nous savons que nous vivons aujourd'hui la grâce de Dieu, pas sous la loi, n'oublions pas que Dieu nous donne des règles et des commandements dans sa parole. Règles non pas pour nous embêter, mais des règles pour notre bien. Vous voyez tout au début de ce psaume, au verset 1 et 2, il commence par le mot « heureux ».« Heureux ceux qui sont intègres dans la voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel ». Donc la loi est là pour notre bonheur, pour notre bien, pas pour être un problème. Verset 2, « heureux » de nouveau, « heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur ». Oui, la loi de l'Éternel, les préceptes, les prescriptions de Dieu sont là pour nous guider et pour nous rendre la vie heureuse. Voilà donc pour le thème du psaume en général. C'est la parole de Dieu. C'est un psaume qui parle de tout le reste de la Bible. Bien sûr, ce qui avait déjà été écrit, mais les parties aussi qui devaient encore être écrites quand ce psaume a été écrit. La parole de Dieu. En deuxième lieu, la présence de Dieu. Le but de la Ligue pour la lecture de la Bible, vous pensez peut-être que c'est aider les gens à lire la Bible. Pas tout à fait. C'est aider les gens à rencontrer Dieu chaque jour par la lecture de sa parole et par la prière. C'est très important. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Si nous lisons la Bible, ce n'est pas pour déifier la Bible. C'est pour qu'on puisse rencontrer Dieu dans la Bible. Et le psalmiste l'avait bien compris. Vous l'avez certainement remarqué dans tout ce psaume, le psalmiste souligne l'origine divine de l'Écriture. Il appelle la loi de l'Éternel dès le premier verset. Et à partir du verset 4 jusqu'à la fin du psaume, il s'adresse directement à Dieu. Il parle de tes statuts, de tes prescriptions, de ta parole. Nous savons bien sûr que nous avons la parole écrite. Mais la parole écrite nous renvoie à la parole incarnée, Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, dit Jean. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, il a fait connaître. Et cette parole écrite est là pour nous révéler Dieu et pour nous révéler sa parole incarnée, Jésus-Christ. en lisant la parole de Dieu. Le psalmiste cherche à connaître Dieu lui-même. Il dit dans notre lecture, « Je te cherche de tout mon cœur. » Je te cherche en lisant ta parole. « Je te cherche de tout mon cœur. » Et si Dieu est à l'origine des Écritures, si Dieu révèle sa volonté par elles, c'est aussi Dieu par son Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre. C'est pourquoi notre approche de la Bible doit toujours être une approche respectueuse dans une attitude de prière. Nous trouvons une prière au verset 18 que, enfant, il y a plus de 60 ans maintenant, je chantais avant de lire la Bible, hein, c'était encore la Ligue, hein, là en Angleterre, dans mon pays natal, où à 7 ans on chantait déjà « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». On peut lire la Bible et ne rien retenir. On peut lire la Bible et bon, ça ne me dit rien aujourd'hui. Ça peut arriver, même quand on a une attitude de prière, c'est vrai. Mais si nous arrivons dans une attitude de prière, cela nous aide et le Saint-Esprit nous aide à ouvrir les yeux et le cœur pour que le Seigneur nous parle par sa parole. Comme le psalmiste, nous devons compter sur l'aide de Dieu par son Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Au verset 12, il dit ceci, « Enseigne-moi tes prescriptions. » En lisant la Bible, il demande à Dieu de l'enseigner. Et cette prière, « Enseigne-moi tes prescriptions », il répète 8 fois dans le psaume. Je ne vais pas vous donner tous les versets, si vous voulez, je peux vous les donner après. Il pourrait sans doute comprendre un certain niveau avec son intelligence humaine, avec sa tête, bien sûr. Mais pour saisir l'importance de ce qu'il lit et pour en profiter vraiment pour aujourd'hui, il a besoin de Dieu comme nous. Il dit plusieurs fois dans ce psaume, « Je m'attends à ta parole. » Il est dans l'expectative en ouvrant la parole de Dieu. Ce n'est pas tout simplement un rituel de lire la Bible chaque jour. C'est pour rencontrer Dieu et dans l'attente d'avoir l'aide de Dieu pour la comprendre. Il revient donc constamment à Dieu dans sa lecture. Il s'attend à le rencontrer, à être dirigé par lui. Notre étude de la parole de Dieu ne vaut pas grand-chose si nous ne cherchons pas à être dirigés par Dieu en la lisant. Oui, c'est vrai que nous pouvons arriver à lire la parole un jour sans être particulièrement touchés. Dans la Ligue, on vient de lire le livre du Lévitique et ces derniers jours, je me disais, mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire dans ce passage? Est-ce que celui qui a commenté a trouvé quelque chose que moi je n'ai pas trouvé? Mais c'est vrai que c'est bien de lire ces passages, même si parfois nous avons du mal à voir ce que le Seigneur veut nous dire. Le deuxième épître à Timothée dit ceci, de Timothée 3,16, « Toute écriture, même le Lévitique, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est pour être utile au Seigneur dans la vie de tous les jours que nous avons besoin de nous nourrir chaque jour de sa parole. Tout dépend de Dieu. C'est sa parole, la parole de Dieu. Nous cherchons la présence de Dieu pour nous aider à comprendre. Et nous cherchons à vivre dans sa présence. Comme nous avons chanté dans plusieurs de ces chants, « J'aime ta présence, j'aime être dans ta présence, Seigneur. » C'est en lisant sa parole dans la prière que nous sommes dans la présence du Seigneur chaque jour. Mais il y a aussi la part de l'homme. Notre troisième P, si vous voulez, la part de l'homme. Les 8 versets que nous avons lus nous parlent de l'amour de la parole et de l'appropriation de la parole. D'abord, l'amour de la parole. La lecture de la parole de Dieu est une affaire de cœur pour les psalmistes. Le mot cœur se trouve 2 fois au verset 10 et 11. Et dans le texte hébraïque, c'est l'idée du cœur qui ouvre les versets. On traduirait plus littéralement l'hébreu, « De tout mon cœur, je te cherche. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Dans mon cœur, je sers ta promesse, afin de ne pas pécher contre toi. » C'est le cœur qui est touché par la parole de Dieu. Il est aimé de son cœur. Il y va de tout son cœur. Et le cœur pour les Hébreux, bien sûr, c'était la pensée, c'était l'intelligence, mais c'était aussi, comme pour nous, le siège de l'amour. Et il répète tout au long de ce psaume combien il est heureux de lire la parole de Dieu. Il dit au verset 14, « Je me réjouis en suivant tes statuts. » Il dit encore plus loin. Verset 16, « Je fais mes délices de tes prescriptions. » Il le dit 7 fois encore. Verset 97, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ma méditation. » verset 111, tes préceptes sont la joie de mon cœur. Verset 127, j'aime tes commandements. Il faut apprendre à aimer la Bible. Souvent, ce n'est pas l'amour qui nous pousse à lire la Bible, c'est peut-être le devoir. Mais en lisant et en nous nourrissant de la parole, on peut apprendre aussi à aimer la parole de Dieu. Mais le psalmiste n'habite pas sur une autre planète. Plus tard, dans le psaume, il parle bien de ses ennemis, des nuits blanches, des périodes de sécheresse spirituelle aussi. Lui aussi, il connaissait ça. Mais il revient sans cesse à la parole de Dieu qui lui donne le courage de maintenir le cap. Il aime la parole de Dieu. C'est ses délices. Mais il ne se contente pas d'avoir une connaissance générale de la parole, de lire, oui, c'est bien, et après d'oublier, ou de dire, comme nous peut-être, ouais, la Bible, je connais. Non, il a une façon très active de s'engager avec la parole de Dieu. Vous savez, Jacques parle de ceux qui lisent la parole de Dieu, puis ils l'oublient. Et ils font autre chose. Mais le psalmiste dit au verset 11, « Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Il est conscient que même le fait de prendre plaisir à lire la parole de Dieu ne suffit pas pour le blinder contre le mal dans son cœur. Il sait qu'il est faible. Je vais pécher contre Dieu si je ne serre pas la parole dans mon cœur. Il a besoin non seulement de lire la parole, mais aussi de se l'approprier. D'autant plus pour lui, parce qu'il n'avait pas un livre ou un téléphone, ou j'ai la Bible aussi, comme nous. Il ne pouvait pas ouvrir la Bible quand il voulait. Ça n'existait pas. Il devait apprendre la Bible par cœur. Il parle au verset 9 du jeune homme. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole, il pense peut-être à lui-même, ce jeune homme, qui a beaucoup de tentations. Mais il sert la parole de Dieu. Il mémorise la parole de Dieu dans son cœur. J'ai du mal, j'ai toujours du mal à apprendre les versets par mémoire. Mais les quelques versets que je suis arrivé à apprendre et à réapprendre souvent à une autre étape de ma vie m'aident toujours. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces. J'ai rencontré il y a une trentaine d'années le père d'un de nos étudiants, un Allemand, qui était soldat dans la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas beaucoup travaillé à l'armée. Deux semaines après son mariage, il était pris prisonnier par les Russes. Il était sur le front de l'Est, dont les Allemands avaient très très peur. Il était pris prisonnier par les Russes et pendant des années, sa femme de deux semaines, ne savait même pas s'il était vivant ou non. Il n'avait pas le droit d'avoir une Bible dans cette prison russe. Mais il est allé dans son armoire pour me montrer quelque chose. Il a sorti une demi-boîte de sardines, une boîte de sardines coupée en deux, comme un petit classeur, avec du papier à cigarette russe. Il y avait toujours le cyrillique écrit sur ce papier à cigarette, qui recevait de la Croix-Rouge, du poisson de temps en autre, et quelques cigarettes qu'il donnait à ses amis, parce qu'il ne fumait pas. Mais il prenait quand même ce papier à cigarette et de mémoire, avec un petit bout de crayon qu'il avait toujours, il avait inscrit les quelques versets de la Bible qu'il connaissait par cœur. Il a dit, ça, c'était ma Bible pendant 2 ans. C'est tout ce que j'avais, c'est tout ce qu'il avait pour nourrir sa foi et pour nourrir aussi la foi d'autres personnes qui venaient autour de lui pour l'entendre lire ces versets et les expliquer. Je serre ta promesse dans mon cœur. Heureusement qu'il avait appris des versets par cœur pour que je ne pêche pas contre toi, pour que je ne perds pas courage, même dans les prisons russes, dans son cas. Oui, Paul dit que la parole du Christ habite en vous avec la richesse. Et vous vous souvenez, quand Jésus était tenté, lui aussi il était tenté par le diable, mais sans péché. Chaque fois que le diable a tenté, il a répondu, il est écrit. Il a cité la parole. Bien sûr, Satan savait aussi citer la parole de Dieu. Nous avons des ennemis de l'Évangile qui savent aussi citer la Bible. Encore faut-il bien connaître la Bible nous-mêmes et avoir dans notre cœur et dans notre tête aussi. Donc, il apprend par cœur. Au verset 13, il dit « De mes lèvres, j'énumère toutes ces ordonnances. » C'est-à-dire, il répète la parole de Dieu. Il essaie de répéter ce qu'il a appris. Il essaie de se souvenir de ce qu'il a lu. Il fait un vrai effort de l'apprendre, de la porter avec lui. Au verset 15, il parle de la méditation. « Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Il réfléchit pendant la journée à ce qu'il a lu. Si vous connaissez la Ligue pour la lecture de la Bible, vous connaissez un peu la méthode de la Ligue, où nous nous posons des questions sur le texte. Qu'est-ce que ce texte me dit sur Dieu, sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ce passage me dit sur moi-même, sur ma situation actuelle? Qu'est-ce que ce passage me dit sur l'Église? Pour pas seulement lire, mais réfléchir, méditer sur la parole, sur son message pour aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au verset 16, il peut dire qu'il n'oublie pas la parole. Je n'oublie pas ta parole. Fin du verset 16. Il a constamment la parole de Dieu dans sa tête, dans son cœur. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus a parlé très clairement aussi de ceux qui écoutaient ses paroles et ne les mettaient pas en pratique. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, il dit, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Elle n'est pas tombée, sa maison, car elle a été fondée sur le roc. Et l'autre, dont la maison est tombée en ruine, ne connaissait pas la parole de Dieu, mais si, il avait lu la parole de Dieu aussi. Mais n'a pas gardé la parole de Dieu dans son cœur. Est-ce que vous avez lu un passage de la Bible ce matin ou hier soir avant de vous coucher? Est-ce que vous savez ce que vous avez lu? Est-ce que cette parole est toujours avec vous ou est-ce que vous avez oublié? J'admets, souvent j'oublie ce que j'ai lu le matin ou le soir, mais je fais souvent un effort pour me souvenir de ce que j'ai lu, pour m'aider dans la journée. Ou est-ce que vous tombez toujours sur le même passage? La Ligue est là pour vous aider, je dirais tout à l'heure, pour ne pas toujours tomber sur le même passage, pour ne pas éviter les passages que vous n'aimez pas, parce que nous avons besoin de lire toute la parole de Dieu. Mais c'est vrai, la vie moderne nous fait penser à beaucoup d'autres choses au lieu de penser à la parole de Dieu pendant la journée. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Daniel Piala, « Tout me pousse à t'oublier ». C'est une chanson que j'aime beaucoup. Tu bosses, tu pioches, tu trimes dans ce tourbillon faux qui m'entraîne. Les magazines sur Internet, tout n'est pas net. Le dernier film, il dit dans ce tourbillon de la vie moderne, il faut lutter pour faire de la place pour la parole de Dieu. Tout me pousse à t'oublier. Tout me pousse, Internet et tout le reste, à oublier ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, à oublier Dieu lui-même. Il faut faire un effort, il faut combattre pour avoir la parole de Dieu dans notre tête, dans notre cœur, pour que Dieu puisse nous guider au milieu de toutes nos situations. Donc, la parole de Dieu, la présence de Dieu, la part de l'homme, et quelques conseils pour finir, quelques conseils pratiques. Cette méditation n'est pas faite pour culpabiliser les gens. « Oh, j'ai pas lu la Bible ce matin, oh, je voudrais être un grand pécheur. » Non, c'est pour aider chacun, pour exhorter chacun, peut-être à retrouver la joie de lire régulièrement la parole de Dieu. Comment faire alors? D'abord, trouver un moment favorable dans la journée. Vous pouvez lire la Bible et prier. Pour beaucoup, c'est très tôt le matin, avant que les enfants se lèvent, avant de penser au travail de la journée. Pour d'autres, c'est dans le train. À Paris, c'est dans le RER. Ça m'arrive aussi de lire la Bible dans le RER. Quelquefois, ça provoque des remarques d'autres passagers. C'est intéressant. Même d'un STF qui demande le monde, qui a annoncé à tout le monde, « Ah, ce monsieur lit la Bible !» Alors, je ne lui ai rien donné. Et je lui ai expliqué pourquoi. Et bon, il a fait une remarque aussi après ça. Je peux vous dire ça après. Ça peut être le soir, avant de se coucher. Souvent, on est très, très fatigué le soir pour lire la Bible, au moins pour la première fois de la journée. Si vous avez plusieurs moments, c'est mieux. Mais s'il n'y a qu'un seul moment, trouvez vraiment un moment où vous êtes dispo à passer quelques minutes avec Dieu. Le psalmiste disait qu'il méditait la parole de Dieu avant le lever du soleil, verset 147, 7 fois par jour, verset 164, tout au long de la journée, verset 94, et dans la nuit, deux versets où il dit ça. Mais si vous commencez, il est bon de commencer au moins par un moment, quelque part dans la journée, où vous prenez le temps. Non seulement de parler à Dieu, mais de l'écouter, vous parler par sa parole.